France Culture.
À voix nue, Antoine Coudert.
Rodolphe Burger, musicien.
Troisième épisode. Alors comme ça, vous voulez devenir une star du rock'n'roll. 1988-2004.
Après cet épisode à Stromboli, qui me remettait de certaine manière dans la musique, j'hésitais entre deux destinations. Les États-Unis, ça aurait signifié poursuivre un peu le fil de la philosophie universitaire, parce que c'est un moment où certaines portes m'étaient ouvertes à travers justement mon lien à Jacques Derrida, et pour devenir entre philosophe professionnel. Et j'étais très attiré par l'Italie, mais cette fois sans aucun projet. Et résultat des courses, je me suis arrêté à Bâle. En cours d'année, j'ai eu vent d'un poste de philo qui se libérait dans un lycée qui était à la frontière, à Saint-Louis, qui jouxte Bâle. Et donc là, j'ai saisi cette occasion, c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être vraiment ailleurs. J'étais très jeune, j'avais quoi, 23 ans, j'étais à peine plus âgé que mes élèves. Et c'est le moment où je recommence à faire de la musique de manière très volontaire, et un peu en tremblant, en sachant pas où ça allait m'amener, mais en proie à une nécessité. Donc j'ai même recruté les musiciens avec lesquels j'ai fait mes premiers concerts parmi les élèves, tout en faisant l'expérience pour la première fois de l'enseignement, avec beaucoup de bonheur aussi, parce que autant le métier de prof est quelque chose que j'avais jamais envisagé, autant l'expérience du cours, de faire cours en philosophie, quelque chose vraiment d'unique, et dont je suis encore un peu nostalgique, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment singulier, qui n'a lieu que là. Rien ne se compare à ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé faire cours.
Et qu'est-ce que c'est pour vous la bonne transmission ?
C'est très comparable à ce qui se passe quand on fait un bon concert. C'est Deleuze, d'ailleurs, qui comparait le cours au concert. À chaque fois, quelque chose est en jeu, qui n'est déclenché que par cette situation, cette présence d'un public qui est témoin aussi de ce qui se passe entre les musiciens. Alors ça, c'est l'élément encore qui s'ajoute. Quand on fait avec la musique, c'est l'expérience d'être à plusieurs.
So You Want to Be a Rock and Roll Star. C'est une chanson américaine écrite par les Byrds en 1966, reprise notamment par Patti Smith en 1979. Elle nous amène dans ce troisième épisode, durant lequel on va essentiellement parler du groupe Catonoma, que vous avez confondé avec quelques autres. On va les citer. Pascal Benoît, Guy Biquel, dit Bix, malheureusement décédé en 2014, Pierre Kayling et l'indispensable Philippe Poirier. C'est un groupe qui a marqué les esprits en son temps, et vous nous direz en quoi l'esprit de Catonoma reste vivant pour vous aujourd'hui. Mais j'aimerais commencer par une question plus triviale sur cette question de rockstar, tellement importante au XXe siècle. Ce statut de rocker et surtout de guitariste virtuose que vous êtes en train de devenir, parce que vous jouez beaucoup, vous êtes traversé par ce que vous jouez. Certains disent que vous jouez avec votre ventre. Vous portez une mémoire plus grande que la vôtre, comme dirait Jackie, le vrai prénom de Jacques Derrida. Hein, à l'époque, dans les années 30, on donnait des noms américains en Algérie française. D'ailleurs, ça me fait penser à votre prénom, la manière dont j'entends votre entourage le prononcer avec force, avec joie. Et chaque fois que je me rends à un concert de Rodolphe Burger, je suis frappé par la ferveur des uns et des autres. Et cette liesse féminine à votre endroit.
On sait bien que c'est un cliché, quoi. Dans le désir même de faire du rock, il y a cette composante, quoi. Et j'ai l'impression de l'avoir vécu de manière un peu, assez précoce. Je dirais pas d'en avoir fait le tour, hein, loin de là, mais quand même d'avoir épuisé un peu quelque chose de ce fantasme. Et donc quand je reviens au rock, et je pense que c'est la même chose pour mes amis de Catonoma, dans notre histoire justement, et ça a pu presque troubler, parce que ça n'a pas forcément été compris. C'est une histoire de gens qui étaient absolument passionnés par l'idée de refaire du rock, mais qui étaient quand même tous un peu dégrisés ou déniaisés, je sais pas comment il faut dire, par rapport à cet imaginaire-là. On n'était plus des ados, et on sait que c'est fondamental dans le rock, cette pulsion adolescente et qu'elle produit les meilleures choses. Hein. C'est « Come on everybody, let's go, on va faire la fête. Les parents sont pas là, on va faire une boum. Bon, » Et puis, c'est le punk qui fait table rase de ce qui précède et qui dit « Avec trois accords, on peut faire un morceau. » Et on est déniaisé à tout niveau par rapport à ça. C'est-à-dire, d'abord, on fait une lecture du punk tout autre. On se rend compte que, bah, que le punk, contrairement à ce qu'il prétend, a des racines, est tout à fait relié à une tradition, à des influences, qu'il y a, etc. Il y a une histoire, au fond, du rock. Et que, quelquefois même, qu'on a besoin de dénier pour en faire. Parce que sinon, c'est-à-dire, on ne peut pas être exactement dans le même rapport au passé que les jazzmen qui ont cette capacité, à la fois d'être quelquefois des grands novateurs et d'honorer le passé. De dire, je suis pas. À la fois, on va tout casser, tout changer, et en même temps, avant nous, il y avait quand même des grands déjà, etc. Donc il y a à la fois une mémoire, une épaisseur de passé, d'histoire, et en même temps, on lâche pas l'affaire de l'innovation, de la créativité, etc. Dans le rock, il y a un rapport plus ado à tout ça. C'est moins, plus oedipien, quoi, je sais pas comment dire. Il n'y a pas. Donc déjà, le fait de considérer qu'il y a une histoire complique un peu l'affaire. Le fait qu'on ait aussi tous un peu pratiqué. Pour certains, le jazz, justement, ou la musique improvisée. Écouter, en tous les cas, beaucoup de choses venues de ce champ-là. Moi, j'ai une passion pour, après le Velvet, les groupes que j'ai écoutés. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Lou Reed et John Cale, au moment de la Factory, là, ce qu'ils allaient écouter le soir, c'était Ornette Coleman en train d'improviser dans le Downtown. Donc, il y a un lien. Et des formations comme l'Art Ensemble of Chicago ou les groupes d'Ornette Coleman, etc., des groupes d'improvisation de jazz, effectuent quelque chose du projet rock à l'extrême aussi, quoi. On n'a jamais été attiré le moins du monde par la fusion. Le jazz-rock était comme un repoussoir, même pour nous. Ce qui m'amène à l'autre point. Mon bémol, il est sur la question rockstar, très franchement. Sans nier rien du soubassement, de l'environnement libidinal qu'il y a autour de cette musique. L'ambition d'être rockstar, c'est pas exactement ce qui m'a animé quand je suis revenu rock. Et le deuxième bémol, il est sur le mot virtuosité. Parce que justement, les musiques virtuoses ou qui supposent la virtuosité, comme justement le jazz rock, etc., étaient aussi des repoussoirs, notamment pour ça. C'est-à-dire que une des choses à laquelle je tiens, moi, dans le rock, et aussi dans le blues, etc., c'est que c'est justement pas des musiques de virtuoses et que la virtuosité, en tout cas, n'est pas un préalable. Et moi, j'ai évolué dans mon jeu de guitare en me débarrassant complètement de ce surmoi-là. Et j'ai été aidé en cela par des autres musiciens qui m'ont dit « Mais on aime bien comment tu joues », alors que moi, j'avais l'impression d'être vraiment un amateur et je me sens toujours comme ça. Mais aujourd'hui, je l'assume. Voilà. Et donc, par contre, j'ai exagéré mes défauts, comme dirait Nietzsche. C'est-à-dire, développer un style à moi qui est passé par justement le fait de lâcher un rapport un peu académique à l'instrument, etc.
Oui. Donc, c'est plus de l'inspiration que de la virtuosité. Musique inspirée plutôt que virtuosité.
Oui, oui.
Ce serait peut-être intéressant de rappeler ce que c'est que la musique improvisée en tant que section, famille de musique, parce que les gens ne sont pas forcément au courant.
Oui, d'autant qu'on nous, on ne s'y rattache pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas un très bon improvisateur, au sens où les jazzmen sont des grands praticiens de l'improvisation. Mais quand même, une leçon du jazz qu'on a retenue, et ce qui nous apparente à ça, c'est quelque chose dans la pratique, dans l'écoute mutuelle. C'est-à-dire dans l'idée que dans la musique, il s'agit toujours de répondre. Que dans la pratique de l'instrument, on est toujours dans une réponse à quelque chose, enfin dans celle qu'on pratique, quelque chose qui a été envoyé, qui peut-être a été envoyé avant dans la mémoire. C'est le rapport à la reprise, par exemple, dans un souvenir musical. Quand je reprends The Passenger d'Iggy Pop, c'est le souvenir de ce morceau qui m'inspire l'envie de reprendre, mais c'est la même chose dans le rapport à l'autre musicien. Il envoie quelque chose et il s'agit d'y répondre, de dire « oui, j'ai entendu ». Et cette circulation-là, elle est plutôt caractéristique des musiques dites improvisées que des musiques composées, absolument écrites et composées. Donc il faut qu'il y ait cette dimension-là, cet espace où on peut manifester qu'on a entendu et renvoyer quelque chose. Et c'est ça qui fait l'événement musical du moment, du concert. Même quand on n'est pas dans des concerts complètement improvisés, on est toujours sur des structures, des morceaux, etc. Mais il y a cette dimension de l'interprétation, du geste, du signe envoyé, du dialogue. C'est ce que me disait Blödelmeier, le guitariste avec lequel j'ai eu la chance de jouer.
James Blödelmeier.
James Blödelmeier, qui, qui est bon, un peu... Voilà, si je suis fan d'un guitariste, c'est bien de lui. Qui est à la fois un virtuose et un non-virtuose.
Que l'on entend sur Marie, justement.
Oui, exactement. Et qui est pour moi un très grand... un modèle, quoi, absolument. Et lui, il parlait, qualifiant ce qu'on fabriquait ensemble, il appelait ça « guitar music » et « dialogue music ». Et par ce mot de « dialogue », il veut dire plus que l'échange entre deux musiciens. C'est aussi l'échange entre la voix et l'instrument, par exemple. Et ce qu'on a dans le blues... Un bluesman, même tout seul, il dialogue. Il dialogue avec lui-même, avec sa guitare. Enfin, cette chose-là, je pense, est cruciale dans une certaine pratique de la musique qui a été la nôtre, je pense, avec Katonoma.
Il y a quand même un groupe qui, à la même époque, fait aussi un peu de musique improvisée et va devenir un grand groupe de rock aux États-Unis, c'est Sonic Youth. Est-ce que vous voyez des liens avec...
Oui, moi, Sonic Youth...
Vous écoutiez ?
Oui, bien sûr. Et ça fait partie des groupes que je pouvais jalouser pour sa liberté de fonctionnement, pour l'autorisation qui lui était donnée de faire des choses de manière complètement indépendante, libre, avec ses sous-groupes, avec cette façon d'accueillir aussi, cette manière très hospitalière de pratiquer la musique, d'être à la fois un groupe et un collectif. Parce que le rock se définit peut-être par ça quand même, c'est le groupe, la notion de groupe est très importante dans le rock. Et Katonoma était un vrai groupe. Sonic Youth aussi, par exemple. Mais c'est l'exemple d'un groupe qui n'est pas en même temps une tribu où on est tous alignés sur une...
Étouffante.
Comment ?
Étouffante.
Voilà. Où il y a du jeu, il y a de la place pour l'expression individuelle et pour pour des pratiques en solo, etc., qui ne menacent pas forcément le travail du groupe. C'est pour ça qu'on a assez vite développé aussi ça. Moi, j'ai fait un album solo en 93... un premier album solo qui s'appelait Cheval Mouvement, et pour moi, c'était pas une manière de vraiment ni de trahir ni le groupe, ni de m'écarter, c'était plus aller zoomer dans l'espace musical du groupe, quelque chose que je pouvais pas développer complètement avec le groupe, mais qui allait avoir après peut-être des effets sur la poursuite de l'histoire du groupe. Sonic Youth est tout à fait un exemple de c'est un groupe de recherche en même temps, quoi. C'est où l'Art Ensemble of Chicago, voilà, c'était ça, et c'était comme un groupe... qui constamment était sur une brèche créative comme ça, quoi, et pas du tout dans la pure et simple reproduction d'une unité forgée, quoi, complètement fermée et déterminée.
Alors on va explorer un petit peu de quoi Katonoma est le nom. Donc il y a bien cette culture de l'improvisation new-yorkaise, plus new-yorkaise qu'américaine, quoique, enfin, il y a le blues aussi, et donc pas seulement new-yorkaise. Et puis il y a quand même ce terreau européen qu'on a évoqué en première émission, qui est donc ce rock'n'roll allemand, cette musique progressive ou krautrock, enfin, qui a peut-être aussi influencé Katonoma. Qu'est-ce que vous en diriez, Rodolphe Burger ?
Oui, comme l'exemple justement de... Ça pouvait être une inspiration, mais de la même manière, le Velvet a été une inspiration, et ça a été souvent souligné. Mais il y a une grande différence entre une inspiration et une influence directe, quoi. C'est des démarches qui peuvent être, à certains moments, inspirantes. On parlait de Sonic Youth, mais bon, le Velvet éminemment, c'est la phrase bien connue de Brian Eno, quoi. Très peu de gens ont acheté le disque du Velvet, mais ils ont tous formé un groupe. C'est des groupes qui donnent envie de faire un groupe ou de faire de la musique, non pas pour les imiter du tout, mais parce qu'ils sont des encouragements, y compris, alors je parlais d'encourager ses défauts, mais y compris à faire avec ses limites, quoi. Le groupe, le Velvet, était un groupe qui faisait avec ses limites et qui transformait ses limites en ressources musicales, en point d'appui pour quelque chose. Bon, le rock allemand peut être une inspiration quand on est justement ce qui était la situation de Katonoma, dans une problématique où on se dit, bon, le rock, c'est quelque chose qui reste très, très important pour nous, qu'on a vécu très jeune, mais dont on peut se dire que c'est peut-être une histoire finie. Alors, on peut se le dire pour soi, on peut se le dire même historiquement, c'est une vieille histoire. Quand le rock est fini, on dit ça toutes les 5 minutes, et puis le voilà qui arrive, t'as les idols qui arrivent et qui te démontrent que le rock n'est pas du tout fini, etc. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est cette dimension du rock, ce phénix, quoi, qui renaît sans cesse. Mais c'est une question qu'on se posait, nous. Est-ce qu'on a encore quelque chose à faire ? C'est pour ça qu'on commençait par faire des reprises. Alors des fois, on s'emberlificotait, on allait dans quelque chose d'un peu trop sophistiqué, et le rock ne supporte pas la sophistication.
Oui, il y avait une ambiguïté sur la manière dont on vous percevait, à la fois très intéressant et peut-être un peu trop cérébraux.
Oui, mais ça, alors ça, c'était
un télo.
Oui, c'est ça, mais ça, c'est une ânerie qui est venue du fait que j'ai pas pris la précaution de dissimuler que j'avais fait de la philo. Que John Cale fasse un truc sur les sonnets de Shakespeare, ça dérange personne. Mais alors, si tu fais ça en France, la rock critique te tombe dessus. Et ça, c'est... Non, mais je l'ai regretté surtout parce que c'est tellement à côté de la plaque. Enfin, il suffisait d'aller à un concert du groupe ou d'écouter les disques. Je dis pas qu'on mettait pas autant d'intelligence que possible dans notre musique ou de, et même de références de manière plus ou moins clandestine, mais tout ça au service d'une proposition qui jamais à aucun moment n'était cérébrale ou élitiste, alors vraiment pas. Et qui au contraire faisait toute la place à une espèce d'engagement, je dirais physique, quoi, dans la musique, quoi, dans une sensualité même musicale.
Alors vous émergez quand même à peu près au même moment que Noir Désir, si on peut...
Ouais, c'est vrai.
Et c'est deux destins complètement différents, en termes de reconnaissance, justement, de popularité. Donc j'entends ce que vous dites, en effet, il y a ce scepticisme peut-être de l'opinion française, de la presse française, et puis peut-être aussi dans, chez Katonoma, la volonté d'être un peu à part, de faire ce pas de côté par rapport, c'est ce que vous dites très bien, sur le fait qu'on est dans un temps d'eux de l'histoire du rock et qu'en
qu'on
est dégrisé.
Oui. Et très franchement, au fond, je dirais le statut, même on a pu à certains moments pâtir d'un certain, je dirais, bizarrement, on n'était pas aidé par ceux qui auraient été nos alliés naturels. Il faut imaginer que les Inrecuptibles, Libération et compagnie soient plutôt des soutiens pour un groupe comme Katonoma, et ça n'a pas forcément été le cas. Mais néanmoins, on a trouvé notre public, on a eu une existence assez royale, au fond. On n'était ni mainstream, ni un groupe vraiment de niche, etc., pas du tout. Donc les concerts étaient blindés, avec une certaine limite. C'est vrai qu'on n'était pas du tout dans la même zone que Noir Désir. Mais on ne souhaitait pas du tout être dans cette zone-là.
Ça, parce que, attention.
D'abord, je pense qu'il y a en France la place pour un groupe de rock qui est générationnel. Il y a eu Téléphone, il y a eu Indochine, il y a eu Noir Désir. Il y a de la place que pour un groupe. Ce n'est pas un pays de rock'n'roll, la France. Donc à un moment, on passe par la case, on est fan d'un groupe quand on est ado. Puis après, on change. Et puis il y a eu le rap aussi qui est arrivé, etc., qui a un peu défait tout ça. Donc nous, on était en effet dans une référence, dans un type de fonctionnement qui... Encore une fois, on aurait préféré être un groupe à la Sonic Youth. Et à certains moments, je me disais, il eût mieux valu être belge ou suisse que français, parce que c'était quelque chose qu'on payait un peu à un endroit, et notamment pour ce qui est d'exister à l'étranger. Ouais. Parce que mon seul regret, je dirais, hein, par rapport à cette histoire, qui a été une belle histoire, qui a été une croisade, parce que ce qu'on faisait n'était pas attendu, était vraiment un peu en dehors des clous et difficile. Il a fallu construire le chemin, notre propre chemin. Mais c'était une super belle histoire, parce qu'on a eu aussi très vite des soutiens et un public toujours, un magnifique public. Mais mon regret uniquement, c'est l'étranger. C'est-à-dire qu'il eût fallu simplement qu'on existe à l'étranger, autant qu'en France, tout pays confondu. Hein, et c'était bon. On était dans un modèle, même économique, qui tenait la route. Et ça, ça nous a manqué. Et on est venu un peu trop tôt par rapport... Il n'y avait pas encore eu la French Touch, dont certains groupes ont pu profiter, parce que c'est quand même... Daft Punk qui a ouvert une brèche de ce point de vue-là. Tout d'un coup, les Anglais ont dit « Ah, oh là là, oui. Les Français sont capables de faire la hype mondiale depuis un studio à Belleville. » Alors ça, c'était pas prévu, les Anglais...
Ils ont fait leur preuve commercialement.
Voilà.
Alors, on reviendra sur ce point crucial demain, mais il y a encore un ou deux points que je voudrais évoquer avec vous, Rodolphe Burger. C'est d'abord le fait que de faire un groupe, même si ce groupe a eu ses particularités de famille inclusive, je dirais, elle est beaucoup centrée autour de votre personnalité. D'abord parce que c'est vous qui êtes à Paris alors que les autres sont à Strasbourg, c'est vous qui cherchez les contacts, qui développez le groupe. Et puis parce que sans doute vous êtes un rassembleur, vous rassemblez des personnalités très marquées. Rodolphe, vous êtes une boussole, c'est-à-dire que vous arrivez à donner le cap.
J'assume tout à fait d'avoir été le leader de ce groupe, c'est-à-dire celui qui donne les impulsions, qui, même au départ, même si cette impulsion était quand même, on parle de boussole, mais là, je ne savais pas où était le nord exactement, c'est-à-dire que je disais, bon, je veux refaire du rock, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas si c'est capable de composer un morceau. Donc. Mais c'est vrai qu'il devait y avoir là une détermination quelque chose qui suscitait un peu l'adhésion. Enfin, j'ai rassemblé autour de moi des gens qui étaient un peu dans un désir analogue. Et on était sur une même longueur d'onde quand même. Jusqu'à ce que se trouve, qu'est-ce que c'est un groupe ? C'est un son, c'est aussi sans doute une image, c'est une composition assez mystérieuse hein, de personnalité. Autant j'assume d'avoir été le leader de ce groupe et en effet d'avoir amené la plupart des idées musicales ou autres, autant réellement, je peux d'autant plus le dire maintenant que j'ai fait quand même plein d'autres expériences avec d'autres musiciens, je mesure encore plus maintenant à quel point c'était un groupe, un vrai groupe. J'avais l'impression, par exemple, de composer pour Katonoma. Quelquefois, les morceaux, j'avais à décider, est-ce que je les aiguillais vers Katonoma ou est-ce que c'était plutôt quelque chose qui appelait un autre type de travail, plus en solo ou avec d'autres musiciens. Et quand on est aussi, ça c'est important, c'est ce qui m'a amené aussi à un moment donné à faire un album solo, là, Cheval Mouvement. Oui. C'est que quand on est chanteur d'un groupe, on est quand même à un endroit particulier qui est qu'on est le porte-parole, quoi. Parce que tout simplement, on chante, on dit les choses. Et donc, il faut que le groupe puisse souscrire à ce qui est proposé. Et donc, on intègre. C'est très inconscient tout ça, mais au moment même où on écrit, où on compose, on intègre le point de vue des autres. Donc c'est pas du tout un truc autoritaire où on vient avec son idée à soi et que donc c'est pas comme ça que ça marche du tout un groupe, hein, sinon ça fonctionne pas. Pour que l'idée colle, il faut qu'elle puisse s'être appropriée réellement et que chacun puisse à l'intérieur de ça vraiment amener son talent, sa créativité, etc.
Il y a ce temps de délibération quelque part.
Et, hein. Mais oui, mais qui souvent n'est pas verbal. Hein, ça, c'est quand il y a trop de discussions, ce que disait Bachoum, hein, c'était très mauvais signe. Hein. Déjà, il y a de l'eau dans le gaz. Hein,
il faut quand même des signaux d'approbation.
Mais oui, mais il faut les sentir surtout. Il faut les sentir et quelquefois aussi, évidemment, alors c'est là que viennent aussi, bien sûr, les tensions, etc. Parce qu'on sait, il y a des blocs de résistance. Je savais, par exemple, que le batteur Costa détestait quand je chantais en français. Et Philippe Poirier, c'était l'inverse. Parce qu'il ne comprenait pas très bien l'anglais. Donc on est dans un travail intérieur de compromis et en même temps d'aspiration. J'avoue, c'est très fatigant. J'ai découvert après... à quel point c'est beaucoup plus reposant de travailler avec d'autres musiciens sans qu'il y ait cette pression du groupe. Bon, avec un fonctionnement un peu particulier, en effet, moi j'étais à Paris, les autres plus en retrait à Strasbourg, j'étais un peu au front à m'occuper de tout ce qui rendait possible cette histoire, et encore une fois, c'était pas facile, c'était pas gagné, c'était pas donné, on nous a pas attendu, donc c'est pas une maison de disques qui nous a signé, on a connu 7 labels successifs, enfin je vous passe les détails de cette croisade que ça a été. Donc en effet, il y avait un grand écart entre nous de ce point de vue-là. Mais en même temps, à un instant T, on se retrouvait pour enregistrer un album, pour faire une tournée, etc. Et le groupe était présent. Et donc c'était une expérience intermittente, mais c'était une vraie expérience de groupe, quoi. Ça, c'est clair. Et longue.
Et longue, jusqu'à 2004. Alors, un personnage clé, c'est quand même votre producteur, celui qui va produire le premier album de Katonoma, qui s'appelle Bernard Meillet. Bernard Meillet est aussi... le manager de Carte de Séjour, donc Rachid Tahar, qu'on retrouvera par la suite. Ouais, donc c'est intéressant cette convergence. Je termine juste pour, peut-être si on voulait, Rodolphe Burger, raconter, prendre un exemple de ce que peut être la musique de Katonoma et ce que viendra la vôtre ensuite, c'est de prendre, de rester sur ces thèmes, de cette manière de reprendre, c'est-à-dire de, à la fois de se regarder, hein, prendre et reprendre, de s'observer, mais aussi de reprendre ce qui existe déjà, se nourrir de la musique des autres, puis ce mouvement espiègle aussi, hein, de jouer avec le répertoire. Donc il y a des choses qui circulent en fait dans le répertoire de Katonoma et de Rodolphe Burger. Je voulais prendre l'exemple d'une chanson qui s'appelle Samuel Hall, que vous avez écrite, et puis finalement vous avez pensé la confier à Alain Bachoum, qui l'a rentrée dans un album, Fantaisie militaire, qui est une chanson qui vient de loin, Johnny Cash dit-on, écrite à quatre mains avec Olivier Cadio, et que vous finirez par chanter vous-même. Cette chanson, Samuel Hall, peut-être c'est une manière de conclure notre entretien aujourd'hui pour raconter un petit peu cette archéologie hein, de la musique selon Katonoma.
Oui, voilà l'exemple d'un morceau que je parlais de la manière dont fonctionne l'inspiration et ce qui fait qu'une proposition est adéquate par rapport à un groupe ou pas, etc. Donc il existe une version enregistrée de Samuel Hall par Katonoma en studio, qui n'a pas été abouti, parce que j'ai, moi, halluciné en la Mashoum, en la chantant. Je me suis dit, mais attends, je suis en train de chanter comme Alain, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche.
Donc il y a une rencontre, là. Hein,
oui, et en même temps, instinctive. Un avortement, en l'occurrence, par rapport à, en tout cas, à l'album. Elle ne figure pas sur un album de Katonoma. Par contre, je l'ai reprise. Alors, peu de temps après, je travaillais à un nouvel album solo, à partir notamment, ce qui m'inspirait beaucoup à l'époque, c'est les rythmiques Jungle. C'est l'album Météor Show. Et je refais une version de Samuel Hall, que je fais chez moi, et j'en parle à Alain. Et lui était en train de travailler à la fantaisie militaire, puis il me dit « Ah, ça m'intéresse, ça m'amuse, cette histoire. Mais je ne veux pas écouter ce morceau, parce que je suis en train de faire le mien, mon album, je ne veux pas écouter d'autres trucs. » Donc je ne sais pas du tout pourquoi. Il me rappelle quelques temps après, en me disant « Finalement, cette chanson-là, ça m'intéresse quand même de l'écouter. » Et donc je lui amène le morceau, il écoute au casque, il dit « C'est dans le disque. »
Est-ce que c'est le souvenir de cette inspiration country music dont on sait que Bachung est...
Je pense que ça n'a rien à voir avec Johnny Cash. Ce qui l'a frappé, ce n'est pas du tout cette citation de Johnny Cash « My name is Samuel Hall and I hate you all ». Bon, la musique n'a rien à voir, le texte non plus, puisque c'est pris dans un cut-up qu'avait fait Olivier Cadio avec bien d'autres éléments. En tout cas, ce qui était assez dingue, c'est qu'il me rappelle qu'il écoute le morceau et qu'il me dise « C'est dans le disque », c'est-à-dire « C'est le morceau qui lui manquait ». Et donc, quand je suis allé en studio après pour, pensais-je, réenregistrer tout, il dit « Mais non, mais on touche à rien, quoi ». Donc, on n'a rien touché de cette démo que j'avais faite chez moi. Il a posé sa voix dessus et j'entends la voix de celui que j'avais halluciné.
Le revenant.
Voilà. Qui la chante... Moi, j'avais fait une démo, évidemment, avec ma voix, et bon, simplement, il la chante parfaitement à la Bachung, quoi. Et bon, c'était extraordinaire comme expérience, évidemment.
Et qu'est-ce que raconte cette chanson ?
Ce personnage-là de Samuel Hall, c'est vraiment le mauvais, le parano, quoi. C'est l'équivalent blanc, un peu de Stacoli, qu'on vous trouve dans les blues américains. Stacoli, c'est vraiment le bad man. Il faut être le tueur, le voleur, celui dont on veut se débarrasser. Et Samuel Hall, c'est vraiment le vieux grincheux insupportable qui déteste tout le monde, qui est paranoïaque, etc. Et tu ferais mieux de nous prendre un truc qui marche, mon garçon. Cette espèce de dialogue avec une femme qui rabroue Samuel Hall, je pense que c'est quelque chose là qui amusait beaucoup Alain. Quoi.
Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche. Merci Rodolphe Burger. On en parlera demain pour la suite de cette À voix nue où il sera question, cette fois, de votre âge d'homme. À demain.
À demain, merci.
Je suis parti à 15h30. J'étais fatigué, j'avais mal. Tu es fatigué, c'est tout, dit-elle. Acheter 1,5 livre de viande, haricots en boîte plus chips. Quel besoin as-tu d'acheter tout ça, dit-elle. Continue comme ça, dit-elle. Ouais, ouais. Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche, mon garçon, dit-elle. Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche. Aval, me disais-je. Allez, aval. Allez au diable. Je m'appelle Samuel. Oh. Je vous déteste tous. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall, je vous déteste tous.
C'était À voix nue, réalisation Jean-Philippe Navarre, prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposée par Antoine Couder, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.